1943. À partir de maintenant, je considère que ça, c'est ce que je vais distribuer à tous ceux qui sont présents ou pas présents d'ailleurs, comme je vous l'ai promis, d'accord ? Donc je commence là. Et donc finalement, ce que vous avez entendu, non seulement vous l'avez entendu deux fois, mais en plus, vous l'aurez sous forme de papier pour arranger tout le monde. Et d'autre part, mardi, je vais continuer donc le cours. Je continuerai là où j'ai arrêté hier. Voilà. Bon, non, enfin, vous inquiétez pas, tout sera par écrit. Bon, bref, ceux qui sont venus donc, peuvent aller prendre un café pendant 20 minutes. Hein. J'y vais. Il ne s'agit pas de perdre trop de temps parce que sinon, c'est pas la peine de faire un tour de 3 heures de rassemblage, il y a 3 heures de pause, quoi. J'y vais. Alors, comme je le disais hier, donc là. Donc c'est là que vous me voyez plus sur le fait, si je puis dire, de mes répétitions. Et d'ailleurs, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça ne dérange pas de répéter, mais bon, peu importe. Comme je le disais hier, ce que je vous ai dit, les grands principes de l'état régi par les codes, est aussitôt remis en question. Et c'est ça qui est, je dirais, passionnant dans l'affaire, parce que en fait, c'est l'idée qu'on avait exposée, j'avais insisté dessus, mais sans présenter les choses de façon un peu comme ça. C'est l'idée qu'en fait, on emprunte un modèle et qu'on en fait exactement ce que l'on veut. Après tout, il n'y a pas de censeur chinois pour aller vérifier au Japon s'ils suivent bien leur modèle. Donc effectivement, les Japonais en font ce qu'ils veulent. Et il y a deux lois à cet égard qui sont assez significatives de cette liberté absolue en fait, des dirigeants japonais, c'est-à-dire particulièrement de l'empereur, parce que c'est bien l'empereur qui va rédiger ces deux lois, celle de 723 et celle de 743, qui, vous allez voir, en fait, sape un des fondements de l'État régi par les codes, qui est, comme vous le savez, ce fameux principe de la nationalisation des terres et des hommes. Donc ces deux lois attaquent ce principe-là, surtout, je dis en passant, le principe de la nationalisation des terres, puisque, en fait, ce sont telles que les deux lois vont rendre privées. Donc les deux lois vont s'arranger pour que ces terres soient des lois privées. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent plus à l'empereur. D'abord, on va faire les choses de façon, je dirais, délicate. En 723, on va prendre une première disposition selon laquelle tous ceux qui défrichent une terre, et bien sûr, quand vous entendez terre ici, vous entendez rizière, l'État régi par les codes ne s'occupe officiellement que des rizières. Tous ceux qui défrichent des terres pour en faire des rizières, voilà. Tous ceux qui défrichent des terres pour en faire des rizières se voient, pourvu que, donc c'est une petite condition quand même, pourvu qu'ils le fassent avec de nouvelles installations d'irrigation, c'est-à-dire qu'en fait ils n'utilisent pas leurs vieilles digues, mais qu'ils en créent de toutes sortes, etc. Donc pourvu qu'ils le fassent avec de nouvelles installations d'irrigation, sont autorisés à posséder ces terres sur 3 générations. Ça veut dire qu'en fait ces terres sont censées échapper pour 3 générations à la propriété de l'État. Alors 3 générations, c'est diversement, ou bien la génération donc première de celui qui défriche lui-même la terre, ou qui l'a fait défricher, parce qu'évidemment il n'est pas question que les aristocrates, ou même les petits fonctionnaires de la capitale de Nara, défrichent eux-mêmes les terres, ils les font défricher. Hein. Quand je dis ceux qui défrichent les terres, c'est à la fois ceux qui le font physiquement, et ceux qui le font faire par d'autres, parce qu'ils sont trop importants socialement, sont autorisés donc, je sais plus quel était le début de ma phrase, à posséder ses terres pendant 3 générations, donc le premier, celui qui défriche ou fait défricher, son fils et son petit-fils. Autre cas de figure, la loi est assez souple, peu importe, ça peut être également donc, le fils du défricheur, le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Donc à ces deux niveaux, en tout cas c'est 1, 2, 3 générations pendant lesquelles les terres ne sont plus du tout redistribuées donc dans le lot commun de ces terres. Elles sont redistribuées à personne, elles appartiennent, c'est reconnu par la loi donc, à leur défricheur. Voilà une entaille pas tout à fait mortelle, mais quand même très grave, à ce principe qui veut que toutes les terres relèvent de l'État. Et c'est l'empereur qui prend ses lois. Donc d'abord, je vous décris, l'ampleur du problème, c'est-à-dire qu'en fait, cette remise en question, en deux étapes, et ensuite, je vous explique bien sûr pourquoi on a fait cela. Deuxième étape, c'est donc la loi de 743, qui va plus loin que la précédente, et là, je dirais que c'est assez mortel, au sens propre du terme, dans le sens où ça tue le. Ou en tout cas ça participe à la déliquescence d'un système fraîchement mis en place, c'est la loi qui veut que tout défricheur de terre, pourvu toujours qu'il ait recours à de nouvelles installations, canaux d'irrigation et autres, en fait, se voit autorisé à posséder la terre juste, non seulement jusqu'à la fin de ses jours, bien sûr, mais pour toutes les générations dont il sera l'ancêtre, pour toujours. Donc, ses fils, cousins, petits neveux ou je ne sais quoi encore, sont censés être désormais des propriétaires ad vitam aeternam. Et quand je dis ad vitam aeternam, en fait, je reprends un mot latin pour ce qu'on disait à l'époque, c'est pas la peine de le noter. En japonais, on disait eitai pour l'éternité. Voilà. Et donc, en 1943, on remet très sérieusement en cause cette nationalisation des terres. On autorise les uns et les autres à avoir des terres. Je termine juste parce que je suis sûre que la question que vous avez posée, je vais répondre d'une façon ou d'une autre. Et si je n'ai pas répondu, je vous réponds. Alors, qui est autorisé à bénéficier de ces deux lois, celle de 1723 d'abord et celle de 1743? En fait, tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont censés avoir des terres, c'est-à-dire une large partie de la population. Soit les aristocrates, de la capitale de Nala, soit, quand je dis tout le monde, c'est des gens un peu importants, quand même dans les passes domestiques, serviteurs et autres, donc vous savez qu'ils n'ont pas de terre de toute façon, mais par exemple le notable de province. Les uns et les autres n'étant pas considérés de la même façon, on va bien sûr faire en sorte que les uns, par exemple les moines, les aristocrates, aient plus de terres des fichiers que les autres. On leur autorise donc plus de liberté, mais cela dit, le principe veut quand même que tout le monde puisse bénéficier de cette loi-là. Enfin, de ces deux lois-là. Alors, ces domaines qui sont désormais privés, et habités à partir de 1743, à l'époque, on leur donne déjà un nom à part, qui est en fait un nom chinois contemporain. On l'utilise déjà au 8e siècle en Chine pour désigner les domaines privés, puisqu'en Chine, le phénomène aussi s'est répandu. Donc, d'une part, vous avez les terres qui dépendaient de l'État, et puis de l'autre, vous avez celles qui étaient totalement... des électrons libres, je dirais, on les appelle des shōen. On les appelle des shōen, des domaines privés. Des domaines privés, vous faites attention au fait que ces domaines sont, en fait, ces domaines sont toujours tout de même soumis à l'impôt. Et ça, c'est essentiel, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi l'État se tire littéralement une balle dans le pied en créant donc ces deux lois. Donc, à partir de 1743, ces domaines privés qui accordent la propriété sont quand même un avantage pour l'État régi par les codes, et c'est pour ça qu'ils créent ces deux lois, sont quand même un avantage parce qu'ils continuent à percevoir des taxes, des corvées, des redevances, etc. dessus. Donc le principe que je vous ai énoncé, selon lequel ce système-là sert à exploiter la population, demeure absolument, même sur ces shōen. Pour l'instant, on en reste là. Donc la raison essentielle, c'est qu'en fait, l'État songeait manifestement à obtenir plus de produits fiscaux sur des terres, et pour encourager en fait les uns et les autres à créer donc davantage de production, donc davantage de riz, on a jeté un peu de lest et on leur a laissé posséder donc les terres ainsi. Donc dans un premier temps, soit dit en passant, donc je ne l'avais pas dit aux autres étudiants, mais tout ce que je ne dis pas ponctuellement, je le rattrape quand même d'une façon ou d'une autre. Dans un premier temps, en fait, c'est assez bénéfique pour l'État. Donc pas de vision rétrospective alarmiste. C'est-à-dire que, en fait, dans un premier temps, il semble que non seulement on soit vraiment arrivé à encourager la population à produire plus, c'est-à-dire à défricher plus de terres et donc à produire plus, mais en plus, elle a continué, cette population, à payer des impôts sur ses domaines privés. Donc dans un premier temps, c'est tout bénéfice pour l'État régi par les codes. Et c'était justement le but de la manœuvre. Alors pourquoi, au début du 8e siècle, a-t-on eu recours à une telle ruse, je dirais, pour obtenir plus de biens fiscaux? Alors on a réfléchi, évidemment, parce que toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans les textes, et on s'est demandé quel était le contexte, en fait, de ce début du 8e siècle qui faisait que, d'un côté, l'État régi par les codes proclamait un principe de nationalisation, et que de l'autre, il le savait complètement en autorisant une propriété privée dans l'archipel. Il semble qu'à cette époque, en fait, on ait eu besoin de fonds, tout simplement. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de monnaie, donc toutes les taxes qui sont perçues le sont de façon très concrète. C'est bien du riz qu'on apporte à la capitale par les divers circuits. Et en fait, ce besoin s'explique par un tas d'entreprises qu'on a faites au début du 8e siècle, vous en connaissez déjà un certain nombre, par un tas aussi de ce qu'on pourrait appeler de dysfonctionnement, des choses qui ne marchent pas dans l'établissement du Litsuyo Koka, des choses qui ne marchent pas, et on compense ainsi donc le manque de fonds. Donc je vais vous donner quelques exemples de toutes ces choses qui ne marchent pas qui ont poussé l'État donc à trouver cette solution. D'abord, comme je vous l'ai dit, D'un côté, vous avez donc les clans dominants qui, de la cour, imposent un certain nombre de choses. De l'autre, vous avez un tas de gens qui essaient de toutes les manières d'y échapper. Donc, on avait déjà dit que c'était presque la définition des Eimishi, sans doute des Japonais ordinaires, si je puis dire, dans le nord et l'est, qui veulent échapper et contre lesquels, en plus, on est en guerre. Contre lesquels, en plus, on est en guerre jusqu'au début du 9e siècle, comme vous le savez. Les guerres ont coûté une petite fortune à l'État régi par les codes. Il s'agit de remplir les caisses, bref. Voilà, donc première raison. Deuxième raison, le fait que ce fameux phénomène de déguerpissement dont on a parlé, là c'est clair, au 8e siècle, on a des preuves qu'il y a plein de gens qui sauvent, en fait. On instaure le litigieux Kolka, et puis de l'autre côté, toutes les populations qui sont un peu loin de la capitale font en sorte d'y échapper en se déplaçant, tout simplement, et laissent les terres là en friche. Donc, vous avez compris, pour mieux encourager les populations, on leur donne au moins la possibilité d'avoir ces terres donc, en Shoen. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, donc là, on n'en avait pas du tout parlé, puis ça me permet de faire un lien avec l'autre partie du cours. On a besoin également de fonds pour subvenir à la construction d'une énorme statue bouddhique, qui sera d'ailleurs la plus grande qui ait survécu historiquement au Japon. Une grande statue bouddhique, en japonais, on dit Dai Butsu, donc je vous donne immédiatement le mot, parce qu'on ne dit pas grand Bouddha en français, on a l'habitude quand même d'utiliser quelques mots japonais, Tenno, Samurai, Dai Butsu, Dai comme grand, Butsu comme Bouddha. Un grand Bouddha, quand on dit Dai Butsu, on pense à un monument, hein. C'est un monument qui se trouve à Nara, soit dit en passant, qu'on peut encore visiter aujourd'hui, et qui est absolument grandiose aux yeux des gens de l'époque, qui a coûté beaucoup d'argent, qui s'est construit dans les années 740, et qu'on a commencé à construire dans les années 740, et qui explique sans doute donc ce besoin de fonds pour les terres régies par les codes. Et puis enfin, dernier exemple de cet encouragement qui apparaît nécessaire aux yeux des dirigeants, c'est qu'il y a un tas de gens dans les provinces, quand ils sont un peu éloignés, et qu'on n'a pas beaucoup de moyens de les contrôler, en fait, puisque, comme je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à l'autre groupe que je disais, ça je ne m'en souviens plus, qu'il n'y a donc ni téléphone portable, ni télégraphe, ni réseau très développé de routes. On a déjà des routes avec des relais, mais ça reste extrêmement rudimentaire, pas d'hélicoptères, d'avions pour aller vérifier et sanctionner immédiatement. Donc en fait, vous avez dans les provinces un tas de gens qui prennent leurs aises et qui notamment donc s'accaparent les domaines publics, soi-disant publics, pour en faire leurs propres terres privées. Et donc tout cela échappe aussi à l'État régi par les codes qui veut compenser ces pertes-là et encourage donc les propriétaires en leur permettant cette propriété privée. Voilà donc un tas de raisons qui semble-t-il se multiplient et qui font que dès le début on cherche à pouvoir vraiment appliquer cet état régi par les codes, quitte à en saper quelques fondements, mais le but quand même, c'est de toujours pouvoir mieux l'appliquer. On jette vraiment un peu de lest. Point. Voilà, donc j'en ai fini pour ces deux lois de 723 et 743. Vous notez que c'est la première génération de domaines privés dans l'histoire du Japon. C'est la première génération parce qu'on verra un peu plus tard, au Xe siècle, il y en aura une seconde, qui n'a strictement rien à voir parce que finalement tous ces domaines privés, pour X raisons, vont disparaître. C'est-à-dire que donc au 8e siècle, ils apparaissent dans le cadre de ces deux lois. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, les choses vont rentrer dans l'ordre. Ces Shoen disparaissent. Ces terres en tant que territoire privé disparaissent et vous aurez une deuxième génération qui les remplace. Voilà, donc ça c'est très important, je vous dis comme ça que c'est très important de savoir que ces Shoen nés à l'occasion de ces deux lois sont éphémères. Parce que c'est vraiment très important de le dire, parce que ensuite j'ai toujours dans mes devoirs des gens qui m'expliquent en fait l'apparition des samouraïs par les deux lois de 723 et 743, parce que vous êtes ainsi fait, et moi aussi sans doute, que vous retenez surtout, quand mon plan indique des dates dans les titres, vous retenez très bien toutes ces dates-là, alors qu'en fait le phénomène des premiers Shoen n'est pas si important parce qu'il est très éphémère, et puis en plus la course en sort assez bien, elle arrive à taxer les terres. Donc c'est pas si important que ça. Ce qui est juste important, c'est de savoir que on se permet de grandes libertés pour mieux en fait appliquer. Ah oui, ça me fait penser Ça me fait penser un peu, parenthèse, hein, parce que c'est un peu tard, mais ça me fait penser un peu à une des raisons pour lesquelles j'aime bien, pour des raisons strictement historiographiques, soit dit en passant, et pas du tout idéologiques, Lénine. Ça me fait penser un peu à Lénine. Vous connaissez tous Vladimir Ilitch Ulyanov, au début du XXe siècle, qui, en fait, d'un côté, donc, fait tout, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment tout fait pour mettre en place une société communiste, qui s'aperçoit que ça ne marche pas, qui revient en arrière à partir de 2-3 ans plus tard, en disant on va céder un peu de l'Est et on va instaurer le capitalisme, pour mieux, en fait, plus tard se donner les moyens d'instaurer une société communiste. Je trouve ça assez génial, dans le genre, l'État régi par les codes, toute comparaison... c'est juste une comparaison d'esprit, hein, c'est pour se faire plaisir. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Mais l'État régi par les codes, en fait, a fait un peu ça pour mieux instaurer sa domination et mieux instaurer donc, en fait, ses principes chinois. Il laisse un peu de propriété privée et il taxe davantage. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas si contradictoire que cela, finalement. Alors, rien à voir, ou presque, avec les domaines privés, quoique, soit dit en passant, un des partenaires sociaux qui est le plus bénéficié de cette politique de Shoen, ce sont quand même les bons, c'est-à-dire les moines du bouddhisme. Et finalement, c'est une bonne transition, donc c'est pas si différent que ça, pour passer au point 3, l'avènement d'une culture bouddhique dans un univers religieux complexe, où je vais vous raconter que l'un des derniers aspects de ces relations sino-japonaises sont à la fois l'instauration et la diffusion, au moins dans les couches élitistes, d'une religion au principe totalement nouveau au Japon. Et, soit dit en passant, assez angoissant, je trouve, aussi. Donc, rang 3, comme je le dis chaque année, je vous préviens, je ne suis jamais très fière de cette partie de mon cours, parce que le bouddhisme présente un univers extrêmement complexe. Certains vous diront même que le seul lien entre les divers bouddhistes du monde, c'est de se dire bouddhiste, c'est pour vous dire. C'est tellement divers. Nous autres Français, par exemple, sommes tellement... Et je parle des Français, hein, pas des Européens. Mais nous autres qui sommes si habitués donc à la centralisation, si habitués à l'idée qu'il y a une église à Rome qui existe une sorte de sens. Et puis, il y a un peu de protestants, des juifs, des musulmans. Mais qu'en gros, quand même, c'est Rome et que ça structure un peu notre pensée de la religion, que cette idée qu'il y a un sens. Et puis ensuite, on s'écarte plus ou moins du sens. Mais c'est un peu ça, notre idée des institutions religieuses. Or, dès que vous entrez dans le monde du bouddhisme, en fait, vous apercevez qu'il y a une myriade d'écoles, vraiment des gens très différents, qui défendent des positions très différentes, qu'ils peuvent dire tout est leur contraire, c'est-à-dire que les uns par rapport aux autres, et qu'en fait, vous avez très peu de points communs. Vous avez cependant une espèce d'univers partagé, une sensibilité partagée que moi je vais vous présenter de façon extrêmement simpliste, là encore. Et comme ça vous aurez un peu une idée de ce à quoi ressemble le bouddhisme, mais il faut bien vous dire quand même que vous allez être étonné, quand on avancera donc dans les cours suivants, de voir que les uns et les autres défendent des positions quand même franchement différentes. Alors, des choses de base. Puisque je suppose qu'une bonne partie d'entre vous en fait ne sait pas ce qu'est le bouddhisme. Donc des choses de base pour expliquer cette religion. Et puis pour tous ceux qui viennent du cours d'hier, sans doute retrouveront-ils là des choses à peu près nouvelles. Je regarde juste mon heure, oui, non, parce que j'ai promis à une jeune fille que j'allais parler pendant 20 minutes et qu'elle pouvait venir ensuite. Ok, je suis dans les temps. D'abord, des choses de base. Bouddhisme, c'est quoi ? Donc, c'est un mot qui vient d'un concept fondamental de cette religion, philosophie. Je vous dirai pourquoi, depuis le début d'année, je dis toujours religion, philosophie. Je n'ai pas encore explicité cette distinction que je fais. Donc, qui vient d'un mot fondamental, qui est celui de Bouddha. Bouddha. Bouddha, on va dire que c'est en quelque sorte un titre religieux qui désigne tous ceux qui ont obtenu l'éveil. Alors, évidemment, vous ne savez pas encore ce que c'est que l'éveil, mais je vais vous l'expliquer. Un Bouddha, c'est donc un éveillé, quelqu'un qui a obtenu l'éveil. Et il se trouve que lorsque les bouddhistes font l'histoire de leur philosophie religieuse, ils s'entendent à peu près tous, pour dire qu'il y a eu au moins un Bouddha humain, donc quelqu'un qui, comme vous et moi, est un être humain, dans l'histoire de leur courant, qui s'appelle donc diversement, il s'appelle vraiment diversement, je ne sais pas si vous voyez là, parce que mon studio est tout petit lui aussi, vous le voyez, le mot ou pas? Bon, alors, je vais chercher dans... Non, je vais oublier. Je ne sais pas ce qu'ils font là, dans ce préparé, ils cachent tous les fermes à clé qui... Bon, ça sera mieux. Donc, ce Bouddha historique, c'est-à-dire qui a vraiment existé, lui, on n'en doute absolument pas, hein, comme on ne doute pas de l'existence de Jésus-Christ ou de Mahomet. Parmi les divers noms qu'on lui attribue, il y a celui de Shakyamuni, c'est son nom japonais. Mais dans le dictionnaire, vous trouvez, enfin, Larousse par exemple, ou Robert, vous trouvez Shakyamuni, c'est pas très différent. En fait, c'est un nom, c'est une appellation qui renvoie au fait que c'est un sage ou un ascète. Donc Muni, c'est le sage, ou bien l'ascète, qui appartient à un clan. Ce clan s'appelle les Shaka. Donc c'est le clan des Shaka. Le sage ou l'ascète du clan des Shaka. Voilà un des noms que l'on lui donne. Son nom personnel, je dirais, est un peu plus compliqué à retenir. Donc cette fois-ci, je vous donne la version, je dirais, indienne, hein, enfin francisée, de son nom indien, de son nom personnel. Il s'appelait donc Siddhartha, c'est son nom, c'est son prénom. Et son patronyme, c'est Gautama. Donc ça, c'est sa définition, je dirais, civile. Siddhartha Gautama, dit l'ascète des Shaka. Alors, autant vous dire qu'on ne sait pas. C'est bon, vous êtes autant vous dire qu'on ne sait pas grand-chose de lui, et tout ce que je vais vous dire relève plus de la légende que de l'histoire. En fait, ce monsieur a existé de façon certaine, mais il y a bien longtemps, et puis bon, comme c'est un personnage quand même assez important, toutes sortes de traditions se sont attachées à sa figure, et du coup, on ne sait pas toujours ce qui est vrai et ce qui est faux. Du coup, là, je vais vous raconter une version relativement moyenne, consensuelle de sa vie. Alors, il serait un personnage de la moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ, si bien qu'il n'est pas très loin de gens comme Confucius. C'est un Indien, donc il appartient à la civilisation indienne. Il est né dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, dit-on. Et ce monsieur donc faisait partie de, donc était quelqu'un de normal, si je puis dire, faisait plutôt partie des puissants à l'intérieur de sa civilisation au milieu du 6e siècle. Il faisait partie donc de la caste des guerriers, puisqu'en Inde déjà il y avait donc un système de castes. Les premiers à bénéficier de ce système, c'était les brahmanes, soit des religieux. Il n'était pas de cette classe des brahmanes. Lui faisait partie de la classe qui vient juste en dessous, donc assez puissante quand même dans cette société, celle des guerriers ou des princes, on va dire. Donc c'est un laïc, hein. A priori il n'a aucune formation religieuse, aucun statut religieux, en tant que guerrier. Et comme bon nombre donc de ces logues, il est donc marié, il a même un enfant. Il vit dans un palais, apparemment, donc c'est quelqu'un de tout à fait étonnant. Et la légende vous dit qu'à partir de 29 ans, alors allez savoir ce que signifie exactement cet âge dans la civilisation indienne, à partir de 29 ans, en fait, il quitte le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il abandonne sa famille, son palais, son statut même de guerrier, et il erre. Il erre, donc en fait, il divague, mais au sens géographique du terme, hein, de divaguer, hein, pas au sens psychologique. Donc il erre ici et là, jusqu'à ce qu'à 36 ans, il obtienne l'éveil, et donc devienne, pour la tradition bouddhique, un éveillé, un Bouddha, d'accord, jusqu'à 36 ans, donc il fait ça d'ailleurs sous un figuier. Et puis ensuite, que se passe-t-il, ben, de 36 ans jusqu'à la fin de sa vie? En fait, je crois qu'il est mort vers 81 ans, enfin, dit la légende, hein, bien sûr. Donc pendant plus de 40 ans, 45 ans environ, en fait, il passe son temps à prêcher le bouddhisme, donc il s'attire une certaine communauté, et à prêcher et puis à méditer, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour, je dirais, deux, trois éléments presque historique de ce personnage. Donc il existe bien un Bouddha historique, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines, il existe bien un Bouddha historique, mais vous verrez, pour tous ceux qui sont bouddhistes, en fait, il existe des divinités également qui sont beaucoup plus nombreuses et presque plus centrales en fait que ce personnage-là. Alors, c'est un éveillé, ce monsieur. Et en fait, il hérite d'un tas de religions qui existaient avant lui. Il n'innove pas complètement. Il y a un tas de principes qui existaient dans, par exemple, ce qu'on appelle le brahmanisme, justement, donc une vieille religion indienne, ou le védisme. Et lui va apporter, je dirais, un certain renouveau. Donc, d'un côté, il hérite de notions. De l'autre, il apporte un certain renouveau. Et c'est ce qui fait donc qu'il fonde une nouvelle école. Alors, comme je l'expliquais aux autres, et peut-être que l'ayant déjà expliqué hier, je serais plus... Et en fait, c'est toujours un cours que... Hier, j'étais pas contente parce que j'avais décidé cette année de réduire un peu. Puis j'ai pas dit tout ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que d'un côté, les étudiants ne connaissent pas du tout le bouddhisme, alors que c'est fondamental, je dis en passant, c'est aussi important que le christianisme et que n'importe quelle autre religion. Quoique j'ai un petit soin en passant, une petite dent contre tous ces journalistes qui passent leur temps à faire des manchettes de journaux avec bouddhisme, christianisme et islam, en fait, qui existaient dans le monde. Tout ça parce qu'en fait, à bouddhisme, on peut mettre Bouddha, ça crée un ni, à islamisme, on peut mettre Mahomet, et à christianisme, on peut mettre Jésus-Christ. Et ils oublient toutes les autres formes de religion, culte des ancêtres, animisme, par exemple le Shinto est un animisme, et Dieu sait s'il a une place importante dans l'histoire japonaise. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on est censé, ah oui, puis j'ajoute le judaïsme aussi, auquel, nous autres, on ne conçoit des religions qu'avec ces quatre pôles, alors qu'il existe des milliards de formes religieuses dont on ne parle jamais, parce que pour nous autres, monothéistes chrétiens, en fait, tout ce qui sort du judaïsme, de l'islamisme, de l'islam plutôt, du christianisme et du bouddhisme, n'est que superstition. Donc en fait, les soi-disant journaux qui veulent parler des religions entières font une soupe totale de toutes les autres formes de religion. Donc ça m'agace toujours. Oui, non, je disais ça en disant que le bouddhisme est aussi important que le christianisme, etc. Mais bon, le culte des ancêtres est aussi important, nos kamis sont aussi importants, etc. Bien sûr, ce n'est qu'une vision totalement totalement partielle de la réalité. Bref, toujours est-il que je m'aperçois au cours des années que le bouddhisme, d'un côté, vous ne connaissez rien, bon, et de l'autre, ça ne vous intéresse pas d'entrer dans cet univers alors qu'il est assez... c'est vrai qu'il est assez différent. Et donc, j'ai toujours tendance, et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, quand même, je vais avoir tendance, comme hier, à réduire à quelques notions, dont j'en ai présenté trois, cet univers. Alors, la première notion, pour vous donner un peu un goût de ce qu'est cet univers, vous verrez, il est à la fois très différent, vous allez pouvoir vous y retrouver, pourquoi pas, justement en tant que chrétien, puisque le premier, c'est la douleur, quand même, et que dans notre religion chrétienne, nous avons aussi fortement cette conception de douleur, qu'on fait ce que l'on dit sur la passion du Christ, hein, c'est il a souffert pour les hommes. Donc là encore, c'est dans le christianisme, la douleur est mise en avant, mais là en fait, vous verrez, c'est légèrement décalé en quelque sorte. Donc la douleur, c'est le premier pont qui nous permet d'avoir une idée de ce qu'est le bouddhisme. C'est une notion essentielle. Douleur, c'est-à-dire qu'en fait, les bouddhistes ont pour point commun, au moins ce point commun minimum, de considérer que tout n'est que douleur. Tout n'est que douleur. Donc vous pouvez prendre tous les aspects de la vie, puis je ne vais pas tous les énumérer parce que sinon on y est encore jusqu'à demain soir, voire plus tard encore, tous les aspects de la vie en fait ne sont que douleur. Donc on va commencer par le début, la naissance. Je ne sais pas si c'est vraiment le début parce que vous allez voir que dans cette philosophie religion, on admet qu'il y a aussi d'autres vies avant la naissance, donc prenons un point de départ artificiel. La naissance est douleur, bien sûr, pour l'enfant qui naît. Nous ne nous souvenons plus, mais... Il paraît que ça fait très mal de naître, les poumons, l'estomac pendant des mois entiers. Nous naissons, et puis la sortie comme ça du monde, nous naissons dans la douleur. C'est pas manifesté comme ça dans les textes bouddhiques, hein, bien sûr. Mais disons que c'est une philosophie qui est religion, qui est très consciente de... c'est très matériel, enfin, quand je vous parle de douleur, si je parle de cet enfant qui sort expulsé et qui souffre, de la mère, je ne vous en parle pas. C'est pour vous dire qu'en fait, on s'attache, comme toutes les grandes religions qui ont réussi, parce que le bouddhisme est une religion qui a réussi, qui s'attache à ce qui peut, angoisse en fait les hommes. Donc la naissance est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'amour est douleur, bien sûr, confère aux vieilles chansons françaises. Le désir est forcément douleur. Le désir est un concept très important. Voilà, quelque chose qui nous, à nous autres, dans notre civilisation judéo-chrétienne, mais c'est pas très travaillé le désir. Hein. Donc la passion du Christ, la croix, le chemin de croix, sa crucifixion, etc. Ça, on a bien travaillé ce côté-là, mais le côté désir. Le côté désir, le fait, et je ne parle pas seulement du désir sexuel, mais toute forme de désir. Le désir de devenir éveillé, par exemple, le désir d'atteindre l'éveil, le désir bien sûr sexuel, sexuel ou amoureux, le désir d'être savant, le désir d'être riche, etc. Donc toutes les formes de désir sont aussi une source de souffrance, puisque la vie vous apprend que bien souvent ce n'est pas satisfait d'une part, donc le désir n'est pas satisfait, et bien plus souvent encore, et pire encore, si je puis dire, quand il est satisfait, de toute façon, il est toujours éphémère. Donc, même le désir est douleur. Voilà, donc là, on entre, mademoiselle, on entre dans un... Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette idée-là est fondamentale. Elle n'est pas complètement nouvelle pour nous autres, on ne la découvre pas, mais cette idée des deux, trois autres que je vais vous donner, en fait, vous introduit dans un autre monde, et vous allez voir donc tout ce qu'on fait pour échapper à cela. Donc, la douleur, premier concept, donc, sur lequel le Bouddha et d'autres ont réfléchi. Deuxième concept, celui de l'impermanence. Donc là, je dirais que, en revanche, on entre déjà dans des choses plus exotiques, qui nous sont moins familières à nous autres judéo-chrétiens. L'impermanence, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée que tout change constamment. Et quand je dis tout. C'est le fameux cours d'eau, comme disaient les Grecs, ou même pour Mirabeau, le poème d'Apollinaire, le fameux cours d'eau qui, où l'eau s'écoule et donc est symbole de changement perpétuel. C'est dans l'impermanence, c'est bien sûr la fortune des uns et des autres, une fois pauvre, une fois riche. Souvent d'ailleurs pour insister sur le contraire, puisque tout n'est que douleur, ceux qui connaissent la richesse sombreront dans la dégénérescence, etc. Donc l'impermanence de tout ce qui vous paraît acquis, rien n'est semblable, et de la même façon, donc ce que vous constituez vous-même, donc toutes les choses, vous compris, vous en tant que en tant qu'être, parce que vous êtes bien des êtres vivants, on avait vu que cette notion d'être vivant est fondamentale, vous êtes bien des êtres vivants, donc là vous n'avez pas à douter de cette réalité, mais en même temps, en tant qu'être vivant, vous n'êtes en fait qu'un agrégat de choses, qu'une combinaison d'agrégats, une combinaison qui constamment se renouvelle, ce que vous étiez bébé, vous ne l'êtes pas adolescent, vous ne le serez pas adulte, et vous ne le... enfin, etc., etc. Et donc ce désir que vous avez d'être une personnalité, par exemple, est une totale illusion. Ce que vous êtes aujourd'hui, encore une fois, vous ne le serez pas demain. Et le fait de s'attacher, donc parmi toutes les choses qui causent de la douleur, par exemple s'attacher à soi, s'attacher à son bien-être, forcément remis en question, s'attacher à soi, s'attacher à l'idée que vous avez une quelconque importance est totalement illusoire, puisque de toute façon vous n'êtes qu'une combinaison d'agrégats, et donc quelque chose qui va forcément changer, et donc quelque chose auquel vous n'avez pas à vous attacher, puisque tout attachement est douleur. Tout attachement est douleur, parce que l'attachement, c'est des efforts pour garder une structure, par exemple, et ces efforts sont forcément attachés de douleur. Quand vous voulez garder le bonheur, quand vous voulez garder la richesse, ou quand vous voulez garder l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En gros. Donc, en fait, ce sont des notions qui se répondent un peu à la façon baudelairienne. Donc, toutes ces notions sont liées. Là, j'ai des tâches, parce qu'il faut bien que je présente les choses de façon un peu pédagogique, mais toutes ces notions que je vous présente, donc les deux, trois, sont liées. Douleur, c'est central. Et vous allez voir, il y a des divinités qui sont là pour vous faire échapper à la douleur. De la même façon, ces mêmes divinités pourront vous faire échapper, j'expliquerai dans un instant, à l'impermanence du monde. Et enfin, troisième notion, et troisième notion, enfin, donc, pour présenter ce bouddhisme, celui de la transmigration. Donc, c'est pas très loin, de cette idée d'impermanence. Là, on hérite littéralement du brahmanisme, par exemple. Donc, c'est une idée qui n'est pas née avec Shakyamuni, qui existait bien avant lui, qui a été reprise, cette idée que les êtres passent leur temps à mourir, renaître, etc. Ça s'appelle la transmigration des âmes. Alors, donc c'est là où je reprends, donc là je reprends ce que je n'ai pas dit hier, par exemple. Donc là c'est nouveau pour tous ceux qui sont présents. Vous faites donc transmigration, je vous explique, mais avant je vous explique quand même une contradiction fondamentale. Tout comme le christianisme n'est pas dénué de contradictions absolument fondamentales et en fait absurdes presque, parce que ça colle pas, le bouddhisme c'est pareil. C'est-à-dire que cette idée, par exemple, que j'ai avancée selon laquelle tout est impermanent, que tout n'est que combinaison qui se désagrège forcément, est plutôt en contradiction avec cette idée que les êtres vivants passent constamment donc d'état de... subissent constamment un cycle de naissance et de renaissance. Parce que vous pouvez me dire, mais finalement, est-ce que c'est les mêmes pièces et qui renaissent ensuite? A priori, non. Et vous avez compris la logique? Si l'on conçoit que rien n'est permanent, que ce que vous êtes n'existe pas, n'est qu'une combinaison provisoire qui forcément va changer, comment concevoir par ailleurs qu'il y ait transmigration des âmes si celle-ci ne constitue pas une réalité permanente? Et quand on vous dit dans le bouddhisme que vous êtes homme ici, demain, vous, enfin après une autre vie, vous serez animal, et que vous serez trois vies plus loin, si je puis dire par exemple un dieu, hein, on a vu qu'il y a plusieurs catégories d'êtres vivants, qu'est-ce qui assure la continuité de tout ça? A priori, rien. C'est contradictoire. Mais, d'abord, c'est contradictoire pour deux choses, pour deux raisons. La première, c'est que le résumé minimaliste que je vous fais de cette religion, donc en fait, met en avant ces contradictions-là. Et puis d'autre part, c'est qu'il n'y a pas de discours sur la réalité qui ne soit pas contradictoire. Exemple, pour le christianisme, n'est-il pas contradictoire de concevoir un Dieu tout-puissant, extrêmement bon, d'une parfaite bonté, etc., qui par ailleurs donc autorise les guerres, la maladie et même la crucifixion du Christ, n'est-ce bien sûr? Alors après, on cherche de décrire cette contradiction par laquelle, par exemple, le fait de souffrir une voix pour devenir un saint, voilà, et que donc finalement la souffrance n'est qu'une illusion puisque le but ultime c'est de devenir un saint. Voilà une contradiction du christianisme, voilà une contradiction du christianisme. Donc vous avez aussi les contradictions fondamentales dans le bouddhisme, surtout quand on l'explique de façon aussi simple que ce que je fais actuellement. Donc en tout cas, on revient sur ce concept de transmigration. Vous entendrez souvent parler de samsara, donc ça c'est le terme sanskrit, je vous l'écris. En japonais, donc samsara, en japonais, donc, c'est plutôt le terme de l'igné qu'on utilise pour désigner donc le fait que l'on passe d'un état à l'autre. On naît, meurt, renaît, et qu'en fait, on passe d'un état à l'autre en fonction, bien souvent, pas toujours, hein, parce que certains vous diront que ce sont les bouddhas, en fait, et les bodhisattvas qui décident de l'état dans lequel vous allez renaître. Mais, en gros, l'idée assez partagée, c'est quand même celle-ci, à savoir que l'état dans lequel vous renaissez dépend de vos actes, de ce que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle le karma. Vous avez fait de bonnes actions, vous êtes donc autorisé, en quelque sorte, à renaître dans un état plus favorable que celui d'animal, qui sera par exemple l'état d'homme. Il y a six catégories d'êtres vivants dans le bouddhisme. Les hommes... C'est pas la peine de toutes les noter, hein, mais les hommes ne sont qu'une catégorie parmi d'autres. Vous avez les hommes qui sont en situation plus enviable que les animaux, quoique le bouddhisme les protège, hein, soit dit en passant, dans certains pays. Au Japon, on a essayé de le faire une fois, ça n'a pas trop marché. On a vraiment essayé de le faire une fois, c'était au XVIIe siècle. Il y avait un shogun qui était né une année du chien. Donc une année du chien, c'est déjà quelque chose. Et il en a déduit qu'il devait protéger des chiens. Et donc là, c'était déjà une idée bouddhique. Et donc il a entretenu. Enfin, pour vous dire qu'au Japon, ça a été possible. Il a entretenu ce qui a rendu furieuse toute la population de la ville, c'était Edo, donc l'ancienne Tokyo, des chenilles avec à peu près 100 000 chiens auprès de la population qui n'avait pas le droit de ne pas apporter de nourriture, ni de ne pas les soigner, qui devait même les enregistrer. Donc on a de cette époque des listes de chiens. Alors c'est amusant parce que j'ai travaillé un peu, donc un chien, poil roux ou poil noir, j'en sais rien. Malade, il faut le soigner. Puis comme ça, vous avez des listes entières qui enregistrent des chiens, des chats qui traînaient dans la capitale et qui leur apportent donc au nom de la protection des êtres vivants. Donc, mais certes pas. Il vaut mieux certes être un homme qu'un animal. Mais dans le bouddhisme, en Inde, par exemple, et à certaines époques du Japon, on est allé très loin quand même dans la protection des animaux. Le mieux, c'est peut-être d'être dieu. Il y a la catégorie des dieux, donc des divinités. Mais attention. Les divinités, comme les animaux, comme les hommes, comme les êtres affamés, une catégorie... D'ailleurs, hier, on est venu poser deux, trois questions, mais madame, c'est quoi les êtres affamés? Ben, c'est des êtres, donc parmi les six catégories, qui ont toujours faim. On représente toujours de façon un peu famélique, avec les côtes en l'air, à l'air, etc. Ce sont des êtres qui ont faim, qui sont affamés. Il faut croire que le spectre de la famine pesait fortement sur ces civilisations très anciennes d'Inde. Interprétation à 350, hein, je dis ça juste comme ça, mais il y a quelque chose sans doute de fondamental là, dans cette conception d'êtres qui ont pour caractéristique le fait d'être toujours affamés. Évidemment, il vaut mieux être un homme et même un animal. Hein. Mais cela dit, tous les êtres affamés, divinités aussi, ce qui est quand même le nec plus ultra, hommes, animaux, sont tous soumis à ce cycle sans fin, parce que c'est un cycle sans fin que celui de ces transmigrations, et selon leur karma, action positive ou négative, ils renaîtront donc dans un état plus ou moins favorable. D'accord. Donc ça, c'est une idée fondamentale qui n'est pas propre à chaque anonyme qui a été hérité et puis qui, aujourd'hui encore, donc fait fortune dans les citations boutiques. Alors, il existe des moyens, nous dit le bouddhisme, d'échapper à tout ceci. Tout ceci est un peu angoissant quand même, cette idée que tout est douleur. Et donc, en fait, la perception qu'on a des choses que tout est douleur. Cette idée que tout n'est qu'impermanence et qu'on ne peut même pas se raccrocher à ce qui pourrait être un jeu, qui n'existe pas. Les commentateurs du bouddhisme vous feront beaucoup de discours sur l'existence du jeu et de l'individu dans le bouddhisme. Comme quelque chose de problématique. Tout ceci est aussi angoissant que de savoir que vous passez votre temps, en fait, à renaître dans un autre état sans avoir absolument aucune garantie du caractère confortable de cet état. Et ce que je disais hier, et j'insiste beaucoup, donc c'est toujours le côté un peu tordu du coup, c'est de vous présenter toujours les deux facettes, c'est que finalement c'est tout ceci qui arrive au Japon, à la cour du Yamato, enfin dites maintenant Mitsuyokoka, à Nara, puis à Heian, et qui sera de plus en plus répandu dans la population japonaise. Moi je trouve que c'est un peu, comment dire, objectivement, c'est pas vraiment libératoire, quoi, voyez-vous. Donc, surtout, de la même façon qu'on avait parlé de cet état régi par les codes, faites attention, c'est pas des progrès de civilisation. Là, faites attention, c'est pas « Ah, très bien, on a adopté le bouddhisme, oui, très bien. » Vous allez voir, je vais vous présenter toutes les façons qu'il y a d'échapper à l'impermanence, à la douleur. C'est quand même aussi fondamentalement une façon d'importer tout cela. Et là, je reprends une comparaison avec le christianisme, par exemple, quand on a, à partir du XVIe siècle, à la suite des grandes découvertes, essayé d'évangéliser des populations entières, on leur a quand même, on a quand même essayé de leur mettre dans la tête que les hommes étaient mortels, que le châtiment des divins pesait sur eux, qu'il y en avait un qui s'était fait crucifier, etc. Donc, il faut voir aussi tout ce qu'on apporte. On apporte beaucoup de ce qu'on apporte aussi beaucoup d'angoisse. Et nos aristocrates de l'époque ultérieure, quand le bouddhisme se sera un peu installé vraiment dans les mentalités de l'élite, ne seront pas des plus sereins, voyez-vous. Alors, donc, on apporte tout ça, qui est, je pense, assez angoissant. Donc, toutes ces notions qui n'existaient pas au Japon, bien sûr, on les apporte et on apporte en même temps la clé, c'est-à-dire les solutions qui apportent un remède, en fait, à tout ce que je viens de vous dire. Évidemment, sinon, ça n'aurait jamais marché. Hein. Jamais marché. Vous ne proposez pas une religion. D'ailleurs, rappelez-vous la raison pour laquelle le bouddhisme est arrivé au Japon, c'est bien parce qu'il assurait la prospérité et le bonheur de l'État. Ce n'est pas parce qu'il assurait l'idée que la maladie, la mort, tout ça, que. Bon. C'est bien parce qu'il apportait donc des aspects positifs, on va dire. Alors, les diverses manières, c'est, on vous propose par exemple de faire des exercices d'ascèse, de faire des exercices d'ascèse ou de méditer, ce qui est un peu différent, pour obtenir le détachement des choses. Ne pas... ça réduit un peu votre souffrance que de ne pas vous attacher aux choses, ni à vous, ni à vos biens, ni à votre famille, ni aux soucis du monde. Il faut se détacher. Dans le langage bouddhique, on appelle donc nirvana le fait d'éteindre ses désirs, donc d'obtenir ce détachement du monde qui permet quand même de réduire un peu cette souffrance qui est donc proclamée. Voilà donc par exemple une solution. Méditation, donc on verra un peu ce que c'est par exemple dans le Zen. Ascèse, c'est très concrètement le fait par exemple d'aller passer des mois dans la montagne, voyez-vous, voire des années entières, sans jamais se laver, en mangeant les racines. Très concrètement, il y en a qui ont passé pas mal de temps à faire ça. Hein, et dès le début du bouddhisme au Japon, c'est pour vous dire que quand même c'est eu apparemment un écho. Et puis de temps en temps d'aller jeter, attaché par un bout du pied, par une corde, à un arbre, puis d'aller vous jeter dans un ravin, suspendu la tête en bas je sais pas combien de temps d'ailleurs, je sais pas combien de temps on peut résister, mais voyez-vous, ça peut être ça des pratiques d'ascèse. Bon, ça c'est les formes un peu hard, je dirais, mais vous avez une panoplie d'exercices et de méditation, et d'exercices de méditation ou d'exercices tout court qui vous permettent d'échapper, je dirais, à cet attachement du monde. Donc ça, c'est la première version. Deuxième version, vous avez des divinités qui sont comme spécialisées avec deux T par contre, qui sont comme spécialisées dans le réconfort qu'ils peuvent apporter aux êtres vivants, donc devant tant de souffrances, des transmigrations, etc., et qui peuvent même leur promettre la libération définitive, c'est-à-dire pour toujours, du samsara. Alors, je reviens dans les détails à ce que je viens de dire. Ces êtres-là qui peuvent aller très loin dans le réconfort qu'ils vous apportent, on les appelle des bodhisattvas. C'est une catégorie particulière, très particulière de Bouddha. Donc quand vous entendez Bouddha, vous devez penser à deux choses. Quand vous entendez comme ça en français Bouddha, le mot couramment, ou bien vous pensez à Shakyamuni, qui est, j'espère que vous avez compris, le Bouddha historique, ou bien vous pensez à l'ensemble... vous devez penser à trois choses, excusez-moi. Vous pensez à Shakyamuni, d'accord ? Vous pensez à tous les êtres éveillés qui ont pu exister ou pas exister, je ne sais pas, en tout cas à tous ceux qui ont obtenu l'éveil. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, vous pensez en termes très généraux, donc ce qu'on appelle la notion générique de Bouddha, qui inclut en fait toutes sortes de catégories. Et dans ces diverses catégories, vous avez celle bien particulière des bodhisattvas. Alors, ces gens, cette catégorie-là de Bouddha, au sens générique du terme, toute investie d'un sentiment fondamental dans le judaïsme, voilà, fondamental, et qui est un peu différent de notre amour chrétien. C'est pas si différent, mais c'est quand même un peu différent. C'est celui de compassion, de compassion. Après tout, on dit que Jésus-Christ a souffert par amour pour les hommes. Les bouddhistes mettront en avant plutôt cette notion de compassion, c'est-à-dire en fait cette idée que les bodhisattvas sont conscients de la douleur des êtres vivants, hommes parmi d'autres êtres vivants. Vous voyez, c'est un peu en décalage. C'est pas complètement différent de la notion d'amour, mais la compassion, c'est vous êtes un bodhisattva et vous vous rendez compte de la douleur et donc vous éprouvez une certaine forme d'amour, mais c'est ce que je disais, c'est légèrement décalé. On est dans un autre monde, c'est pas très loin, c'est pas complètement différent. Évidemment, il y a moins de différence entre le christianisme et le bouddhisme qu'entre le christianisme et le shinto, c'est certain. Donc, mais quand même, c'est décalé. Alors, les bodhisattvas sont emplis de compassion, donc cette conscience de la douleur des autres, et s'arrêtent sur le chemin de l'éveil. En fait, ce sont des êtres qui sont destinés à devenir des bouddhas, qui s'arrêtent sur le chemin de l'éveil et qui promettent. Ils font des vœux d'ailleurs, des promesses aux êtres vivants de les secourir et leur permettent, le bouddhisme, certaines écoles bouddhiques leur permettent, ça c'est essentiel, par exemple, d'échapper au samsara, c'est-à-dire certains bouddhas nous permettent de ne plus jamais renaître dans la peau de je ne sais quoi, animal, être affamé ou même homme, même divinité, mais de définitivement donc acquérir le statut d'éveillé, de bouddha vous-même. Surtout si vous êtes un homme, on le verra un peu plus tard, hein, parce qu'à priori, il n'y a pas de bouddha femme. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, en fait, c'est pour vous dire que le bouddhisme vous apporte des notions relativement angoissantes, vous donne également les solutions diverses. Les bodhisattvas sont quand même des êtres à qui on accorde beaucoup d'importance. Donc, ils se sacrifient, pas dans le terme d'une comparaison, parce que la notion de sacrifice, par exemple, dans le christianisme est très importante. Elle n'est pas tellement dans le bouddhisme, mais quand même, c'est un peu l'idée qu'ils sacrifient très provisoirement l'obtention de l'éveil pour se mettre au service des êtres vivants. Mais attention, hein, là j'ai dit ça rapidement, mais c'est simplement pour vous dire que tout est un peu en décalage. Oui, j'aime bien cette idée de décalage finalement, entre les deux. C'est un peu comme le rose foncé, le rose clair, quoi. C'est pas pareil, mais c'est pas complètement différent. C'est pas grave. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, tout cela arrive d'abord en Chine. Donc, ça part d'Inde, hein, bien sûr. Du 6e siècle avant Jésus-Christ, date du Shakyamuni historique, jusqu'au 1er siècle, date à laquelle cet ensemble, cet imaginaire, en quelque sorte, cet univers, apparaît donc en Chine. Au 1er siècle, il apparaît en Chine. Vous avez quand même toutes sortes d'écoles qui se sont fondées en Inde. Toutes sortes d'écoles qui se sont fondées. D'abord, il y a eu les disciples contemporains de Shakyamuni, puis il y a eu les disciples des disciples, des commentateurs, et tout ça a formé donc une école, un courant religieux assez riche. Ce courant arrive au 1er siècle en Chine, donc ça, vous ne le saviez pas, je vous le dis. En revanche, vous savez déjà, mais c'est le moment ou jamais de le renoter, qu'il arrive au 4e siècle en Corée. Dès la formation, pas dans tous les royaumes, mais je ne sais plus trop dans quelles années du 4e siècle, au moment où l'un des trois royaumes se crée, en fait, il adopte aussi le bouddhisme, et vous savez dans quelles circonstances, au 6e au Japon. Alors, en fait, entre le moins 6e avant Jésus-Christ, le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle après Jésus-Christ, donc en fait, si vous calculez bien, ça fait quoi? Ça fait plus de 1000 ans, non? Ça fait au moins plus de 1000 ans. Évidemment, vous imaginez que les choses ont évolué, et en fait, il y a deux grandes catégories de bouddhisme qui existent, et l'une va être privilégiée au Japon. Alors, le temps donc de la réflexion. une catégorie donc, qu'on appelle celle du grand véhicule, donc terme de base, celle qu'on appelle contraduit par le grand véhicule. Pourquoi ? D'abord, c'est elle qui s'est autoproclamée, donc tous les gens qui se réclamaient d'une certaine conception de Bouddhisme se sont autoproclamés donc, je dirais, adeptes du grand véhicule, un véhicule donc qui emporte beaucoup de gens, la majorité. Donc en fait, ça veut dire que beaucoup de monde se rattache à cette conception du Bouddhisme. Cette conception, on va dire, est religieuse. Ce qu'on appelle nous religion. Cette conception est religieuse. Elle a mis en place donc, je termine mon exposé. Elle a mis en place cette idée fondamentale. Donc tout tourne un peu autour de cette idée de compassion et de bodhisattva. Elle a mis en place donc cette idée qu'il y a toutes sortes de catégories de bouddhas et que les bodhisattvas, avec leur compassion, sont là pour aider les êtres vivants. Et donc vous avez des histoires rattachées au Bouddha, vous avez des textes rattachés à leur personne, et puis vous avez surtout cette idée de salut. Cette idée de salut, alors là, qui est commune avec notre christianisme, être sauvé, finalement, dans cette version religieuse du bouddhisme, vous pouvez acquérir le salut, c'est-à-dire très concrètement, on expliquera ça dans les cours suivants, entrer dans un paradis de Bouddha. Alors, comme il y a plusieurs Bouddhas, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y en a vraiment beaucoup, vous avez aussi plusieurs paradis de Bouddha. Chaque Bouddha ayant son paradis particulier. Mais ce que vous retenez pour l'instant, c'est cette idée de salut. Donc, une version religieuse qui met le salut au centre de son monde et qui accepte comme vecteur du salut les bodhisattvas et leur conception. Voilà. C'est pour ça que je disais donc le bouddhisme religion. Mais je disais aussi donc dans les cours précédents le bouddhisme philosophie. Parce qu'à côté de cette conception du bouddhisme, vous en avez une autre qui est beaucoup plus philosophique. C'est-à-dire qu'on s'attache moins aux aspects religieux. Bien sûr, on conçoit le salut, mais on y accorde moins d'importance au bodhisattva, etc. Ce que l'on cherche, c'est avant tout donc à faire des exercices d'ascèse, à obtenir l'éveil, à faire des exercices d'ascèse et à perfectionner la discipline monastique. Donc, ce sont tous ces gens qui vont prendre l'ordination, qui vont devenir moines eux-mêmes et qui vont, dans leur pratique quotidienne, essayer d'obtenir l'éveil. Vous faites attention, ça ressemble un tout petit peu à ce que l'on dit de façon commune sur le zen, mais le zen fait partie du grand véhicule, et non pas de ce petit véhicule hein, que je suis en train de vous décrire, qui est donc l'aspect, le versant philosophique du bouddhisme, qui n'aura que peu d'emprise sur le Japon. D'emblée, le Japon adopte plutôt le grand véhicule, c'est-à-dire la version religieuse. Et il y aura bien un peu de quelques écoles du petit véhicule, c'est-à-dire en fait des écoles qui n'attirent pas grand monde. Il faut dire que c'est franchement plus difficile. Hein. Donc le bouddhisme du petit véhicule, vous n'êtes pas dans l'attente d'un Bouddha qui vient vous sauver, c'est vous-même qui faites tout le travail, si je puis dire, et c'est pas vraiment privilégié au Japon. Voilà. Alors, ça c'est pour l'essentiel, donc quand vous entendez grand véhicule, petit véhicule, sachez exactement ce que c'est, et au Japon, dans toute l'histoire du Japon, c'est celui du grand véhicule, donc la version religieuse, qui prime. Alors maintenant, nous passons dans le point suivant du cours. Et donc, je vous raconte un peu, une fois que c'est entré au Japon, je vous raconte la suite de ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois. C'est le point 3.2, le premier bouddhisme japonais. Donc ça, c'était les grands principes. Je vous raconte un peu qu'est-ce qui se passe une fois qu'on adopte au Japon ce bouddhisme du grand véhicule. Alors, on en était resté à deux dates, celle de 538 ou celle de 552. Rappelez-vous, on hésitait, on ne savait pas trop à laquelle de ces deux dates, en fait, le roi de Kudala avait envoyé sa statue, etc., donc au Okimi du moment. En fait, ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est que il y a eu presque un demi-siècle pendant lequel, en fait, les Japonais ont beaucoup hésité. Les Japonais d'élite, hein, bien sûr, parce que, en fait, seuls ceux qui étaient autour du clan de Yamato avaient connaissance de cette nouvelle religion. Ils ont beaucoup hésité, de 538 ou 552 jusqu'en 594. 594, donc date de base, même si ça dépasse de quelques années notre 7e siècle, 594, c'est la date à laquelle le bouddhisme est officialisé. Voilà. Donc les Japonais ont beaucoup hésité pour deux raisons principales, on va dire. Donc ils ne savaient pas trop s'ils devaient adopter ou non cette religion, donc on leur avait promis tant de choses. La première chose, c'est que lorsque la statue du roi de Kudala est arrivée au Japon, en fait il s'est trouvé qu'un certain nombre d'épidémies se sont déclarées sur le territoire. Bon, vous allez me dire, et vous avez raison d'ailleurs, que les épidémies, ce n'est pas la première fois qu'ils s'en produisaient, et c'est surtout pas la dernière fois, mais On s'est dit, certains se sont dit qu'il devait y avoir un rapport de cause à effet entre l'introduction de ces statues. Je vous ai dit que c'était quelque chose d'assez extraordinaire, qu'une statue, donc arrivant au Japon, on n'avait jamais vu ce genre de choses, ou presque, et donc ces épidémies. C'est la raison pour laquelle la statue a d'abord été jetée dans un canal, donc elle a été jetée, on a voulu s'en débarrasser presque immédiatement pour éviter donc que les épidémies ne se poursuivent. Alors ça pourrait être une première raison pour laquelle on a insisté pendant des décennies entières pour savoir si on devait ou non adapter cette religion. Puis il y en a une deuxième en fait qui est beaucoup plus réaliste, c'est que en fait, vous savez, quand on a décrit cette société de Oji, ils sont très en conflit les uns par rapport aux autres. Ils sont très en conflit. Et en fait, il semblerait que la question du bouddhisme, est-ce qu'on doit l'adopter, est-ce qu'on doit rejeter cette religion, ait servi un peu de prétexte pour que les uns et les autres entrent en lutte. Entre eux. Et à cet égard, donc, il y avait une rivalité dominante à l'époque, dans cette seconde moitié du 7e siècle, entre d'une part les Soga, que vous connaissez bien, et d'autre part les Mononobé, je ne pense pas vous en avoir parlé, qui est un des clans, il y en a d'autres, qu'on citera un peu plus loin, qui est un des clans dominants, donc, moitié du 6e siècle. Et donc, le conflit est antérieur, bien sûr, et puis la question du bouddhisme a un peu cristallisé les haines entre Soga et Mononobé. Alors, on fait des batailles, on s'assassine un peu. Je vous avais parlé, par exemple, de l'assassinat en 592 d'un empereur, rappelez-vous juste au moment où Suikoden, enfin, juste avant que Suikoden ne prenne le pouvoir, en fait, elle prend le pouvoir sur la base d'un assassinat. Quelqu'un qui n'était pas pour le bouddhisme et qui donc est assassiné en 592. Alors, au nom de quoi se battent ceux qui ne sont pas partisans du bouddhisme? Ils se battent au nom des religions traditionnelles du Japon, qu'on appellera un peu plus tard le Shinto. Voilà, bouddhisme ou Shinto, pendant un demi-siècle, on existe, on hésite. En fait, comme les Soga prennent le pouvoir de la fin du 6e jusqu'en 645, ça explique que le bouddhisme se soit donc installé au Japon à cette époque-là. Donc, vous avez déjà toute la chronologie en tête. Vous savez que, par exemple, en 604-605, Shotoku Daishi, qui était allié aux Soga, instaure selon laquelle il faut vénérer les trois Bouddhas. Mais maintenant, peut-être, comprenez-vous davantage que lorsque je vous ai dit que c'était au numéro 2 de ces 17 admonestations, en fait, ce n'était pas du tout un hasard. C'est que le clan des Soga donc, se débarrasse dans les années 590 de ses détracteurs et des détracteurs du bouddhisme. Et la première chose qu'on cherche à faire au début du 7e siècle, c'est il faut respecter les trois trésors du bouddhisme. Donc on impose cette religion, au moins par les textes, au prix, donc après d'âpres luttes entre les clans. Alors, en fait, dès qu'il arrive, ce bouddhisme-là est, je dirais, élitaire. Je dis élitaire parce que le mot est plus social qu'élitiste, mais c'est pas très différent. Il est élitaire, c'est-à-dire qu'en fait, de 594 jusqu'à... Oh là, comptez au moins jusqu'au 13e siècle, c'est pour vous dire. Le bouddhisme n'est l'apanage, mais comme il y a quand même pas mal de sources dans le bois, je ne sais pas si c'est vraiment un vrai privilège, mais n'est que l'apanage des élites du temps. On va faire une petite distinction. Vous avez d'une part les élites religieuses. Donc, en fait, ici, je fais clairement allusion à l'apparition d'un clergé bouddhique, donc de gens qui sont spécialisés dans l'étude, etc., du bouddhisme, et d'en parler. Et d'autre part, vous avez un autre type d'élite, qui est l'élite sociale et politique. Donc là, ce sont tous les fonctionnaires, la famille impériale, et les gens un peu importants, qui constituent donc cette autre partie de l'élite, qui vont, donc, comme la première, ecclésiastique, adopter ce nouveau courant religieux. Alors, avant de dire comment les uns et les autres perçoivent le bouddhisme, je vais quand même vous donner trois points, qui vont vous montrer quand même que les deux types d'élites ont des rapports quand même sur cette question du bouddhisme. La première chose que vous savez déjà, mais ça vous permet de lire les choses d'une autre façon, c'est que lorsqu'on envoie en fait pendant les ambassades vers la Chine un certain nombre de moines, en fait ce sont quand même les aristocrates qui financent ces ambassades, où les bonzes japonais vont aller étudier en Chine. Les aristocrates financent également la construction des temples, ce sont eux qui ont le pouvoir économique. Donc là c'est déjà un premier lien à faire entre ces deux élites sur le plan du bouddhisme. Je vais pas trop vite là, j'ai l'impression d'aller à toute allure. Mais il faut me le dire, parce que sinon je parle toute seule et je me dis bien, j'ai l'impression de parler toute seule. Il faut me le dire, ça prend plus. Avec la fatigue, je me laisse aller, donc je parle beaucoup plus vite. Alors on va prendre la question du monsieur, et puis je crois qu'il y avait une autre question avant, et ça va nous reposer un peu. Cela dit, vous avez quand même noté ce que je viens de dire, sur laquelle donc, il y a deux types d'élites, et qu'elles se retrouvent sur un certain nombre de choses autour du bouddhisme. Par exemple, le financement. Ce sont les aristocrates qui assure ce financement du bouddhisme, en fait, qui va représenter un certain coût quand même. Un temple, ça coûte cher, hein. Un temple, c'est... Puis c'est toujours cette idée que je n'arrête plus. En fait, moi-même, ça me turlupine. Je suis toujours absolument ébahie par nos supermarchés. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ça. Donc, dans un supermarché, et penser à beaucoup d'histoires, et à mon extraordinaire... stupéfaction, tous ces marchés qu'on trouve dans les provinces, dans les grandes banlieues, où là, ce n'est pas des enfilades de tolis que vous faites, c'est des enfilades de rayons aux... Tous les parfums, noix de coco, orange, abricot, noisette, c'est délirant. C'est presque décadent, quoi, ce choix extraordinaire. Nous autres, historiens, quand on regarde en fait la réalité du Japon ou d'autres pays, bien sûr, ils n'ont rien. Un temple, ça coûte cher. Bon, alors, là, vous avez eu assez de temps pour copier tout ce qu'on avait à dire, monsieur.
C'est quoi cette deuxième ?
Ah, oui, donc je suis allée très vite. D'une part, l'élite monastique, les bonzes, les moines. C'est la même chose, hein, bonze moine, sauf que bonze, c'est pas terrible hein, comme appellation. Bonze, c'était la première fois que le mot bonze a été employé en France. D'ailleurs, c'est par François Xavier, donc il était espagnol à l'origine. Donc ça, c'est pas peine de le noter. Hein. En fait, évidemment, lui, il était là pour évangéliser les japonais, donc tout ce qui n'était pas christianisme, c'était forcément de la superstition. Et il a repris le mot japonais, bozu, un des mots japonais pour dire bonze, bozu pour en faire bonze. Et le mot était très, très négatif. Donc, quand vous dites bonze, parce qu'un jour, je me suis fait légèrement taper sur les doigts, lors d'une cérémonie officielle qu'on appelle une soutenance de thèse, mais Madame Kouamé, vous dites même bonzesse, parce qu'on a très souvent dit bonzesse pour qualifier les monarques, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce monde bouddhique. Et moi, ça ne me posait pas de problème, maintenant j'ose plus, donc je dis moi les moniales. Enfin voilà, donc ça c'est le genre d'aparté que je fais. Voilà, je ne vous dirai pas, c'est quelqu'un à la maison d'ailleurs, bonzesse, mais quel scandale! Mais ça se dit, hein, vous le trouvez dans le dictionnaire d'ailleurs. Donc monsieur, voilà, j'ai répondu à votre question. D'une part, ce sont les bons et autres bonzesses, et d'autre part, ce sont les aristocrates, les fonctionnaires, qui moyens et grands. Bon, alors, donc j'en étais à cette idée qu'ils se retrouvent là-dessus sur cette question économique essentielle. Un temple, ça coûte cher. Ce sont les aristocrates qui financent les temples des bons. Deuxième chose, très vite, donc ça c'est intéressant, nous voyons nos aristocrates ou nos ex-empereurs. Ex-empereur, hein, parce qu'un empereur bon, c'est pas possible, vous savez bien qu'il est Camille, donc un empereur bon, c'est hors de question. C'est d'ailleurs, ce n'est même pas inimaginable, ils n'y ont sans doute même pas pensé. En revanche, dès qu'ils quittent le pouvoir, donc dès qu'ils se retirent, s'ils ne sont pas morts avant, nos empereurs se plaisent assez souvent, dès l'Antiquité, au 8e siècle, à prendre l'habit de bon, c'est-à-dire en fait, très précisément, plus que prendre l'habit, ce qui est important, c'est de se raser les cheveux. C'est comme ça qu'on montre dans le monde, qu'on entre dans le monde du bouddhisme des laïcs. Alors donc, nos empereurs, nos ex-empereurs, ainsi que nos aristocrates se plaisent en délaissant leurs fonctions. D'ailleurs, les aristocrates aussi hein, sont obligés, vous allez voir, enfin, vous allez comprendre un peu plus tard, sont obligés de quitter leur fonction de fonctionnaire pour devenir bonze. Donc on se rase la tête, on prend des allures de bonze, on a quelques activités religieuses, et voilà ce qui s'instaure. Donc c'est comme ça aussi que le bouddhisme s'est infiltré dans la cour du Japon. C'est-à-dire que c'est pas seulement des principes et des choses que l'on confie à des gens spécialisés, c'est aussi nos aristocrates et nos empereurs eux-mêmes qui entrent dans cette religion. Je le réponds dans un troisième chose pour vous montrer les liens entre... donc il n'y a pas... Bien sûr, il y a une différence fondamentale entre ce qu'est un aristocrate, un empereur et un bonze, mais les uns peuvent prendre la place des autres. Une fois qu'ils ont quitté leur fonction, ça c'est vraiment très important à comprendre. Et troisième chose qui fait le lien entre cette élite monastique et cette élite laïque, c'est le fait que nos bonzes, à qui on attribue tant de privilèges, et qui sont en quelque sorte les passerelles entre le monde des hommes laïques et le monde des bouddhas, eh bien, ces bonzes se plaisent de leur côté à s'infiltrer dans les problèmes politiques donc de la cour de Nala, et plus tard encore. Mais d'abord, pour la cour de Nala, vous avez un personnage qui est très connu, qui s'appelle Dokyo, qui est un moine. Il est mort en, donc je crois que c'est 772, mais je vérifie quand même. Je pense ne pas, si j'ai pas noté ses dates de naissance, parce que je pense ne pas les connaître. Ah, 772. Voilà un des moines les plus célèbres. C'est pas le plus célèbre, c'est l'un des plus célèbres quand même de cette époque de Nala, Dokyo, qui qui est mort en 770, et qui est l'illustration parfaite d'un monstre qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, du point de vue des gens de la cour, c'est-à-dire de politique. Il est même très proche de l'impératrice donc, de son époque, d'Okyo, et il fait un truc extraordinaire. Il obtient un truc extraordinaire, parce que je l'ai dit que cette fonction est rare, il obtient le titre de ministre des Affaires suprêmes, qui est le premier titre de l'État régi par les codes. Donc il est ministre des Affaires suprêmes, c'est scandaleux d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est incrusté complètement dans les affaires de la cour, et c'est très important de le dire maintenant, et les historiens imaginent que si l'on finit par déménager de Nala, hein, dans cette histoire où finalement on a tendance de plus en plus à s'incruster et à fonder des capitales fixes, c'est sans doute pour échapper à l'emprise de gens comme lui. Donc en 772 il meurt, mais il y a encore des moines très puissants, et pour échapper à tous ces temples qui sont là à Nala, on va voir d'ailleurs s'il ne fait pas un meilleur vivre, et c'est comme ça qu'on va se diriger vers Rien. C'est une des raisons, semble-t-il, principales du déménagement, donc, et de l'installation définitive de Rien, où, je vous le dis maintenant, parce que comme ça, ça sera plus logique dans vos esprits, où l'on va tout faire pendant des siècles entiers pour maintenir à deux seulement le nombre de temples. Donc à Rien, pendant des siècles, jusqu'au 8e, au 8e siècle, il n'y aura que deux temples, parce que justement, on veut éviter d'avoir des clercs qui s'occupe trop d'affaires politiques. Et donc c'est vraiment une question importante que celle de ces moines qui s'occupent de politique et qui l'emprise parfois très importante sur les empereurs, impératrices et autres aristocrates. Donc en fait c'est pour vous dire que les deux élites sont liées quand même, hein, les deux élites sont liées de diverses manières. Mais maintenant, s'il me reste un peu de temps, je vais faire donc la présentation de ce qu'est le bouddhisme pour tous ces bonzes et de ce qu'est le bouddhisme pour tous ces aristocrates. Donc je reviens à une distinction et entre-temps je prends la question du monsieur. J'avais vu un doigt se lever. Oui, monsieur.
Je veux savoir si prendre...
C'est-à-dire excusez-moi, monsieur. Je commence à être un peu fatigué. Vous parlez pas, quelqu'un a toussé, quelqu'un est entré. J'ai rien entendu. Répétez.
Est-ce que le fait de se faire diminuer en tant qu'ex-empereur, d'être protégé de ses sorts par la Nidouane.
Mais protégé contre quoi?
Rien.
Par définition, c'est déjà souscrire. Oui, c'est déjà. Enfin, protégé, oui, dans le sens où ça vous permet. C'est déjà souscrire que de devenir bonze, par exemple, à l'idéologie qu'on a présentée, et donc de se sentir protégé contre l'impermanence, la douleur, etc. Dans ce sens-là, oui. En outre, est-ce que les aristocrates et les empereurs, c'est peut-être l'autre sens de votre question, avaient vraiment intérêt à devenir bonze pour être protégés de leur niveau? Non. Non, pas vraiment. On verra qu'il y a eu un moment de l'histoire du Japon très important, où en fait, effectivement, l'état de moine a, en apparence, servi à, vous vous souviendrez de ce que je vous dis plus tard, à protéger les gens, les empereurs, par exemple, mais ils étaient tellement peu moines dans leur pratique, hein, ça ne les empêchait pas de faire une taille par ailleurs, que je ne peux pas dire qu'ils se soumettaient vraiment à la discipline. Donc, non, pas spécialement, c'est simplement l'adhésion, je dirais, à ce discours. Et puis, ça peut être pour une unité, pour faire bien, pour une mode, ça peut être pour de mille raisons, mais pour être protégé, non, ce qui protège, c'est ce que je vous ai dit, d'avoir des lots de rizières importants, d'avoir des shōen, etc. C'est ça qui protège hein, dans ces sociétés. Voilà. Les individus, en tout cas, les individus. Alors, je reviens. Alors, c'est quoi un bonze au 8e siècle? Alors, d'abord, c'est quelqu'un de complètement nouveau, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez là, dans l'histoire du Japon, une catégorie de gens qui sont spécialisés dans la religion et qu'on ne connaissait pas véritablement avant. Avant, donc, le bouddhisme s'incruste vraiment, puisque... Rappelez-vous ce que nous avions dit des Uji no Kami. Rappelez-vous que ces chefs de clan étaient à la fois donc, investis de fonctions politiques, juridiques, etc., mais aussi de fonctions religieuses, en vénérant donc, les Uji Gami, c'est-à-dire les divinités titulaires des clans. Donc en fait, dans la société traditionnelle du Japon, il n'y a pas de distinction entre religion et d'autres. Enfin, entre monde religieux d'une part et monde non religieux d'autre part. Et avec le bouddhisme, vous avez cette distinction qui apparaît entre des gens qui sont ordonnés, qui passent par une cérémonie, comme vous le savez, et qui constituent un monde à part, qui sont dans des lieux à part, en l'occurrence des temples, qui ont des activités qu'on va décrire à part, et ça c'est nouveau au Japon, c'est vraiment nouveau. Donc je le dis parce que c'est un peu comme les temples et toutes ces choses que vous connaissez du Japon, et qui vous semblent absolument évidentes, parce que c'est ce qu'on voit quand on va au Japon, de façon courante, mais... C'est vraiment au 7e, 8e siècle, 7e et 8e, qu'apparaissent en fait ces gens bizarres, je dirais, spécialisés dans la religion. J'exagère un peu en disant bizarres, mais des gens nouveaux en tant que catégorie, comme plus tard on verra des marchands, des gens bizarres, là, qui ne produisent rien, et qui sont des êtres sociaux nouveaux. Donc, alors, d'abord, première idée, donc, ce sont des gens qui constituent une catégorie tout à fait nouvelle dans la population japonaise. Deux, une catégorie dominante, puisqu'en fait, ce ne sont pas forcément des aristocrates, mais ils dominent la société par tous les privilèges qu'ils ont. Ils la dominent politiquement, à l'occasion. Ils la dominent économiquement par d'énormes richesses qui leur sont accordées par les aristocrates qui commencent de plus en plus à croire et à adopter cette religion. Donc, ils leur donnent un tas de privilèges, comme par exemple le fait de ne pas payer d'impôts. Quand vous êtes bon, vous ne payez pas d'impôts. Ça, c'est essentiel. Donc, vous faites partie de ces gens qui échappent, comme les aristocrates d'ailleurs, aux impôts. Bref, des gens qui ont, je dirais, donc une position dominante, qui sont nouveaux et qui, concrètement, je vais vous parler un peu de ces gens, qu'est-ce qu'ils font? En quoi donc sont-ils différents en dehors de leur ordination? Ils ont aussi un statut nouveau. Alors d'abord, ils passent pas mal de temps à étudier quand même cela. Je vous dis, ah oui, je viens de vous dire, au début, comme c'est nouveau, donc au début du 7e siècle, hein, je vous dis bien 7e, j'en reviens un tout petit peu en arrière, comme ces gens-là sont nouveaux, et qu'on ne sait pas trop avant l'arrivée de Ganjin, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, Ganjin, hein, au milieu du 8e, qui arrive parce qu'on veut savoir comment ordonner les bonzes japonais, enfin les moines japonais. Au début, donc en fait, on a recours plutôt, les moines les plus importants sont coréens, au début du 7e siècle. Puis après, un siècle après, quand on fait venir Ganjin et qu'on apprend comment bien ordonner les bonzes, en fait, ceux-là sont japonais. Donc au début, ils sont quand même coréens, les plus importants d'entre eux, les plus importants, je ne parle pas du domestique qui va porter l'encensoir, hein, parce que vous avez aussi autour de ces gens-là, toute une domesticité. Je ne parle pas de ces gens-là, mais les plus importants sont d'abord coréens et puis ensuite, de façon certaine, japonais, parce qu'on sait au Japon les ordonner. Alors, une fois que ça s'est dit, histoire de vous rappeler quand même que tout est lié et que nos coréens participent de la création de cette nouvelle, de ce nouveau groupe de dominants, je vous dis ce qu'ils font. Donc, alors, d'abord, ils étudient. C'est quand même pas mal de le dire parce qu'on verra qu'à certaines époques, il y a des gens qui passent plus leur temps les armes à la main, donc des bons qui passent plus leur temps les armes à la main que le sutra devant leur nez. Donc, ils étudient. On parle généralement pour l'école de Nara, donc de 6 écoles de bouddhisme, 6 écoles. Vous faites attention, c'est pas 6 écoles opposées les unes aux autres, c'est 6 communautés. En fait, à Nara, il y a, outre tous les temples, des gens qui se réunissent, qui étudient ensemble les textes bouddhiques et qui forment en fait des communautés, absolument pas exclusives l'une de l'autre. Au début, c'est assez, je dirais... on est assez cool dans le bouddhisme, il n'y a pas de conflit très, très puissant, en tout cas sur le plan idéologique. Bien sûr, tout ce qu'on pense, tout ce que l'on médite, vient de Chine, hein. Tout vient de Chine. C'est-à-dire que bah, ça a passé par la Corée à un moment, mais fondamentalement, les concepts majeurs, les notions, les textes, l'écriture, les coutumes, tout vient de Chine, absolument. Et finalement, on s'entend assez bien, ce qui fait que, par exemple, très concrètement, dans un temple donné, vous pouvez avoir des gens qui étudient dans un temple donné, deux ou trois ou davantage encore de ces écoles peuvent être étudiées, donc de ces courants de pensée peuvent être étudiés ensemble. Et par ailleurs, on n'interdit absolument pas à tel ou tel moine d'aller étudier toutes les 6 écoles. Sur ces 6 écoles, vous en avez la liste dans votre brochure, vous regarderez, vous retenez juste une idée. Il y en a 5 qui appartiennent au bouddhisme du grand véhicule, et une qui appartient au bouddhisme du petit véhicule. Donc maintenant, vous savez ce que c'est que le petit véhicule, c'est-à-dire ce bouddhisme très attaché à la sèse et au rite monastique. C'est celle que vous connaissez déjà, d'ailleurs. C'est celle de Mitsu, c'est l'école que l'on appelle Mitsu, et c'est celle du moine Ganji qui est arrivé à mettre en valeur donc, au Japon. Voilà, on a bouclé la boucle. La seule école du petit véhicule, c'est celle de Ganji qui est arrivée au Japon, donc, comme vous le savez, dans les années 750, après avoir essayé de, pendant 5 fois ou 6, d'y débarquer. Je vous sens fatigué. À 5 minutes de la fin, c'est dommage de me le dire si tard. Oui, bien sûr. Non, mais je le sais, hein, je le sens. Puis, bon. Cela dit, comme il me reste 5 minutes, je ne laisse pas partir 5 minutes avant. Hein, sinon, je fais plus d'une heure et demie de rattrapage. Sinon, je fais des rattrapages de cours d'une heure et demie pour une demi-heure. Et bon, ça serait malheureux. Enfin, bon, je ne vais pas installer un silence de trop longtemps. Donc, j'y vais et j'essaie de faire un petit effort. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient. Voilà. Ils forment des communautés intellectuelles. Qui ne sont pas exclus les unes des autres. Et ils étudient quoi? La doctrine, bien sûr, bouddhique. Ils l'étudient comment, concrètement? il étudie à travers des textes que l'on appelle des sutras. Donc on en a parlé plusieurs fois de ces sutras, je vous explique maintenant ce que c'est. D'abord, là j'adopte la graphie la plus simple, hein. C'est un terme sanskrit, mais c'est comme tout ce que je vous écris au tableau, vous avez plusieurs graphies, des savantes et des moins savantes, et là c'est la minimum sans les accents par exemple, vous avez sutra avec OU, bref, vous trouvez dans les dictionnaires diverses versions, sutra. Qu'est-ce qu'un sutra? Donc ce support, je dirais, de la méditation et de la réflexion de nos moines qui étudient encore beaucoup à l'époque de Nala. C'est un sermon, en fait, donc c'est un sens très précis hein, dans le bouddhisme. C'est un sermon qui est attribué à Shakyamuni, attribué, hein, parce qu'en fait, lui, il est ancien, on ne sait pas trop ce qu'il a dit, mais il y a des gens qui ont dit qu'il a dit cela, et donc qui l'ont mis par écrit, et on appelle ça un sutra. Donc un sutra, c'est un sermon prêté à Shakyamuni lui-même, ou à ses disciples contemporains, ou disciples postérieurs, des générations postérieures, tout. Ce n'est que cela. Alors, vous en avez des plus ou moins importants. On en verra de temps en temps, donc, qui sont au cœur quand les écoles vont devenir un peu plus rigides, un peu plus en conflit les unes contre les autres. On verra que certains sutras sont plus importants que d'autres, privilégiés. C'est déjà un peu le cas dans nos 6 écoles. Hein, elles privilégient tel ou tel sutra, mais pour l'instant, ce n'est pas si rigide. Alors, ils étudient. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ben justement, ces sutras. Ils passent un temps assez important à les recopier. Donc là, je répète, pas de téléphone portable, pas de presse à imprimer, pas de xylographie à cette époque, en tout cas au Japon. Donc en fait, la seule manière que vous avez de reproduire un texte, c'est de le recopier au pinceau. Et ils passent pas mal de temps à le recopier. Et j'en profite là pour détendre l'atmosphère en vous disant que les historiens pensent, donc c'est une parenthèse, hein, c'est pas dans le cours, mais je le dis quand même parce que d'abord ça m'a un peu traumatisé pendant quelques années, et puis ça peut vous intéresser si vous allez au Japon. Quand vous irez au Japon, et donc vous aurez des visites obligatoires de temples ou de sanctuaires, enfin, et là je parle des temples bouddhiques en particulier, et que les Japonais donc, vous inviteront à prendre des espèces de petits papiers, vraiment des petits papiers d'ailleurs, enfin ça a des tailles différentes, mais un petit papier moins d'une demi-page à 4 par exemple, à y mettre votre nom, la date à laquelle vous êtes passé au temple, vous y trouverez une formule déjà, souvent toute faite, et puis donc vous déposerez, vous l'achetez bien sûr, hein, ça se vend par petite case, 20, 50, 100, et puis donc, surtout si vous faites par exemple plusieurs visites de temple qui sont liées les uns aux autres par une tradition, vous pouvez comme ça déposer des petits papiers pour marquer votre passage. On appelle ça des fuda, des ofuda, ces petits papiers. Les pèlerins font assez souvent ça au Japon. Les historiens pensent que c'est une version extrêmement populaire, c'est-à-dire extrêmement simplifiée, de cette vieille habitude chinoise et coréenne, japonaise, etc., de recopier des sutras. Sauf que vous, je dirais pèlerin ou visiteur lambda de temple, vous avez juste à mettre votre nom et la date à laquelle vous êtes passé, c'est tout. Et puis déjà, toutes les formules, tout est écrit. Vous déposez ça, et, ou alors vous les collectionnez. Il y a d'ailleurs des pèlerinages entiers qui sont au Japon, donc qui consistent à déposer donc, ces choses-là, qui consistent essentiellement à déposer ces choses-là, c'est ce qui marque donc votre passage dans un temps. Bon, voilà, c'était juste ça. Je suppose que tous ceux qui sont allés au Japon ont déjà vu ces petits ofuda, je ne sais pas, enfin, je suppose. On dit que c'est une cette pratique de recopier les sutras. On recopie les sutras, on les lit aussi, c'est-à-dire on les récite. Et le simple fait de réciter, de lire des sutras, qui sont écrits en chinois, tous en chinois, hein, pas de sutras en japonais, attention, hein, tous en chinois, le simple fait de faire ça a valeur magique, en quelque sorte, ou religieuse, peut permettre d'assurer, de réparer un mal qui a été fait, ou d'assurer donc une prospérité quelconque. Voilà, donc, ils étudient, ils recopient ou lisent des sutras. Ces gens-là s'occupent également de faire des conférences pour expliquer la doctrine. En fait, ils s'adressent les uns aux autres. Hein. Ils font pas... Il y en a très peu, on verra au cours prochain, il y en a très peu qui vont vraiment dans les campagnes pour aller prêcher la religion, tout ce passage-là. Et quatrième et dernière chose, et on termine là-dessus, ils s'occupent aussi, et c'est tout à fait nouveau, de toute façon c'est une classe nouvelle, ils s'occupent aussi des funérailles. Voilà. Alors, ils s'occupent des funérailles, on vous dira, information tarte à la crème, et que vous devez connaître quand même, on vous dira que Le premier tenno, d'ailleurs c'était une femme, à être incinéré selon des rites bouddhiques, s'appelle Jito, dont on va parler tout à l'heure. En fait, c'est juste... Oui, on en a parlé tout à l'heure parce qu'on avait vu que le Hirotsuki était écrit donc écrivait l'histoire du Japon jusqu'à son règne. Et en 702, donc, morte bien sûr, hein, il faut être mort pour se faire incinérer, se fait incinérer, enfin, je dis parce qu'elle commande évidemment cela. En fait, il est extrême, je ne sais pas comment j'ai terminé dans les deux minutes qui me restent là. Elle finit, non, elle commande cela, mais il y a une condition qui est celle-ci. Alors, elle est incinérée, c'est-à-dire qu'en fait, on brûle son cadavre. D'abord, donc, ce qui est important, c'est que là, vous voyez, alors, c'est assez petit signe, là, si je puis dire petit, en fait, c'est un grand signe, qu'on voit que, quand même, ces gens-là, dès le début du 8e siècle, c'est pour ça que les dates, c'est pour ça que la chronologie est essentielle à savoir. C'est ça qui vous donne, en fait, la vraie mesure des choses. Certes, au 6e siècle, quand le bouddhisme arrive de Corée, il est sans doute pas très important. En 702, quand même, en 702, vous avez des gens qui engagent leur mort, qui engagent leur mort. Enfin, moi, par exemple, il me reste une minute, je ne vais pas vous raconter ma vie. Incinérée, je ne sais pas. J'en réfléchis encore. J'ai l'impression que non. Enfin, tout à fait comme j'en suis, je pense que je ne m'engagerai pas jusqu'à là. Donc, si vous prenez cet exemple-là, ces gens-là, ces aristocrates et ces empereurs, pas tous, hein, pas tous, comment pas tous sans doute, j'y crois de manière très diverse, ils s'engagent assez fortement. Pour faire donc, des gens qui aujourd'hui par exemple ne voudraient pas être incinérés, Tito a commandé son incinération. Et donc ça c'est la première chose que je vais dire. Donc c'est une date importante pour celle de 702, si vous voulez avoir des rapports de cette adoption du bouddhisme par l'élite. Et deuxième chose, attention, funérailles bouddhiques n'égalent pas forcément incinération. Et je dirais, à partir du moment où le bouddhisme s'introduit au Japon, du 8e siècle jusqu'à nos jours, nos jours c'est différent, jusque dans les années 1960, en plein milieu du 20e siècle. Pendant des siècles, en fait, en dehors des empereurs et puis quelques bouddhistes un peu durs les bouddhistes japonais se font plutôt inhumer. Donc, ils ne sont pas incinérés, ils se font inhumer. Donc, ils sont sous terre, tout simplement. Donc, bouddhisme au Japon n'égale pas forcément incinération en rite, en matière de rite funéraire. Et je vous dis pourquoi aujourd'hui tous les japonais, je termine vraiment là-dessus, parce que là, au bout de 3 heures de cours, tout le monde est fatigué. Je vous dis pourquoi les japonais aujourd'hui dans la majeure partie des cas incinérés, il n'y a pas de place. Évidemment, même si en tradition funéraire, en fait, pendant longtemps, on a, en tout cas pendant des siècles, les derniers, on ne s'allonge pas, hein, on met les corps comme ça, couchés, en fait, je ne vais pas le faire, parce que, les corps comme ça, assis, recroquillés, donc évidemment, ça prend moins de place, peut-être que les allonger comme nous on fait, dans nos bonnes vieilles tombes chrétiennes, mais il n'y a plus de place. Alors on incinère depuis les années 60. C'est pour ça, c'est pas parce qu'ils sont plus bouddhiques, c'est parce qu'il n'y a plus de place. Et c'est assez récent le fait que d'incinérer systématiquement les gens au Japon, c'est important. Je finis là-dessus. Nous reprenons donc le cours ordinaire de notre discours. Je précise aux gens qui sont venus aujourd'hui que, pour que ça soit bien clair, que donc, toute cette partie nouvelle du cours, je vais la reprendre mardi, d'accord, mais que comme il y a un décalage de moins 20 minutes, je sais plus, entre les deux cours, je vais sans doute dire d'autres choses nouvelles aussi mardi. Mais je vais les écrire, donc ne viens pas mardi et puis on parle de la même chose. Je vais écrire.